14-18. Deuxième partie, au creux de la guerre. Une émission conçue par Frédéric et Dominique Gauthier et réalisée par Alain David.
Octobre 1918. Après avoir été ravitaillé en vivres, cartouches et grenades, vers 2h du matin, en route vers les premières lignes. Le terrain était très accidenté, des bois, des ravins. Tout le terrain était rempli de gros trous d'obus et chaque instant des hommes y roulaient au fond. La nuit était très sombre, il y avait des brouillards, on n'y voyait absolument rien. Nous étions constamment bombardés avec obus de tout calibre ainsi que des gaz. Vers 4h environ, près de Marvaux, les Boches n'étaient qu'à quelques centaines de mètres dans le bois. On était blottis à la lisière, attendant la pointe du jour pour monter à l'assaut. Pendant cet intervalle, un formidable tir de barrage se déclenche, un peu en arrière, mais raccourcissant, le voilà en plein sur nous. Un gros noir, un 150 sans doute, tombe à 2 mètres du groupe où je me trouvais et tous les éclats s'éparpillent sur nous. J'étais couché à plat ventre. Fort heureusement, les éclats me brisent le casque sur la tête et suis resté un petit moment presque évanoui. Un autre éclat me déchire tout le derrière de la capote. L'équipement, mes 2 masques percés et le bidon aussi, mon fusil brisé. Un petit éclat m'égratigne l'épaule, un autre rentre dans la fesse gauche et le dernier traverse la semelle du soulier, mais ne perce pas le pied. Souvenirs et mémoires de la Grande Guerre de Célestin Germain Rivière.
Alors la guerre de 14, c'est la guerre des tranchées. Les tranchées ont été une guerre de position qui était presque une non-guerre. C'est une des premières guerres où on est resté pendant près de 2 ans avec un front qui n'a pratiquement pas bougé avec ce massacre sur place et cette vie absolument inimaginable que nos poilus, quand ils sont revenus, n'ont jamais pu faire partager. Si vous voulez, ceux qui n'avaient pas assisté à ces horreurs ne les comprenaient pas. Ils ne pouvaient l'évoquer qu'entre eux et ils n'avaient pas d'écouteurs valables. Alors, sauf les gosses qui n'ont retenu que quelques mots comme ça, de la côte 303, les éparges, le chemin des dames, etc.
Soyez bons soldats, c'est vraiment gagné à coup sûr. Il n'y a pas de plus beau brevet. Mauvaise tête, mais bon soldat, magnifique. Salaud, mais bon soldat, admirable. Il y a aussi le simple soldat, ni bon ni mauvais. Enrôlé là-dedans parce qu'il n'est pas contre, il y subira sans histoire le sort des guerriers jusqu'au jour où, comme le héros de Faulkner, il découvrira que n'importe qui peut choir par mégarde aveuglément dans l'héroïsme comme on dégringole dans un regard d'égout grand ouvert au milieu du trottoir. Il y a dans cet état de guerrier un autre moment encore qu'on pourrait appeler le moment individuel. C'est le moment où il vient d'être étripé avec une baïonnette pleine de graisse d'armes, où il voit sortir du trou de son ventre l'accouchement mortel de ses tripes fumantes qui veulent essayer de vivre hors de lui comme un dieu séparé. C'est le moment où l'éclat d'obus lui a fracassé la cuisse et que, du milieu de la boue de son corps, il voit jaillir la source lumineuse de son artère fémorale et qu'il sent son esprit glisser dans les mains gluantes de cette fontaine. Brusquement au milieu de la bataille, voilà son drame particulier. Il est déjà sur les bords, d'où l'on ne revient pas. Le jeu s'est joué. Tout le jeu de la guerre se joue sur la faiblesse du guerrier. Jean Giono, Recherche de la pureté.
Au total, sur l'Europe, on estime entre 9 et 10 millions de morts. En ce qui concerne la France, 800 à 900 000 morts, quoi, presque 1 million. Le million est dépassé en Allemagne, le million est dépassé en Italie. Au Royaume-Uni, c'est un petit peu moins qu'en France, mais enfin, c'est une guerre, bon, qui n'a pas touché évidemment que les Français, elle a été meurtrière pour l'ensemble des Européens.
Autant sur la bataille, il brave la mitraille. Il ne pense plus à rien qu'à tirer sur ses sales Prussiens. Mais quand ils sont tourbeaux et qu'ils n'ont plus de plein veau, couchés sur le dos, à nos poilus qui sont souffrants, c'est qu'ils leur vaut comme distraction. Une femme, c'est qu'ils leur ferait gentiment passer un sacré bon moment. Une femme, au lieu de la sale gueule des Allemands, ils aimeraient bien mieux certainement. Une femme, très bon sang, qu'est-ce qu'ils donneraient pas pour tenir un moment dans leurs bras. Une femme.
14 décembre 1915, alerte dans la nuit. Départ à 2h du matin pour la relève aux mêmes emplacements, temps froid et forte gelée. Et après, il pleut à torrents. Boyaux et tranchées sont comblés. Les sapes et gourbis se remplissent d'eau. Pour aller chercher le ravitaillement en suivant les boyaux, l'eau ou la boue arrive par-dessus les genoux et en beaucoup d'endroits dépasse la ceinture. C'était triste et pitoyable. Pour faire 300 mètres, fallait des heures entières. Les Allemands se trouvaient dans la même situation. Les premières lignes étaient de 20 à 30 mètres environ. Un beau matin, les Boches sortent des tranchées en criant « Franzouze, camarades, plus tirer !» Nous en faisons autant, se regardant face à face, sans oser tout de même trop se montrer. Pendant quelques jours, on se familiarisait, étant arrivé d'aller se serrer la main à travers les fils de fer barbelés, s'offrir des cigarettes, de la gnôle, échanger des boules de pain. Le colonel défend de se fraterniser et fait tirer quelques rafales de 75 sur les lignes Bosch. De Célestin Germain Rivière.
On avait perdu l'Alsace-Lorraine. Alors, on avait pas mal d'industries de la guerre qui étaient dans l'arrière-pays. Castres, Toulouse et les environs, etc. Vous aviez beaucoup d'usines d'armement.
D'abord, évidemment, on pense en premier au rôle que les femmes ont tenu pendant cette guerre, parce qu'elles ont porté l'économie d'un pays qui faisait sa première guerre industrielle. Autrement dit, si elles n'avaient pas collaboré à cet effort de guerre, la guerre se serait arrêtée. D'ailleurs, elles en étaient parfaitement conscientes. Et l'une des originalités de cette guerre, c'est que toute la population est investie dans cette guerre, physiquement et psychologiquement. Ce qui s'est passé plus spécialement, c'est que les femmes ont assumé des tâches qui jusqu'alors étaient réservées aux hommes.
Mardi 5 octobre 1915. Mon bien-aimé Jean, c'est le cœur bien gros et l'âme en peine que je te trace en ces quelques lignes. Hier déjà, je ne t'ai pas écrit car je ne pouvais que te dire que je commençais d'être en peine sur ton sort, mais aujourd'hui, il faut bien que j'écrive si, comme je l'espère de tout mon cœur, tu recevras et liras cette lettre. Je n'ai rien reçu toujours, mais je viens d'apprendre que Parel est blessé légèrement et qu'il t'a parlé quelques instants avant, donc tu étais toi aussi dans l'enfer dont il parle à cette fameuse attaque du 26, et depuis je n'ai pas de nouvelles. Que Dieu te garde. Et malgré toute mon inébranlable confiance en sa bonté et qu'il ne t'abandonnera point, j'ai l'âme lacérée par de bien tristes pressentiments. Si au moins j'avais le bonheur d'apprendre que tu es sorti sain et sauf, ou quitte pour un simple bobo comme Johannes ou Parel. Ma lettre va peut-être t'ennuyer de me voir dans de si tristes réflexions, mais ne te tourmente pas de ça si tu es sans péril, car si j'en étais quitte pour le mauvais sang, j'en rendrais bien grâce à Dieu. Quel triste passage dans la vie et quel terrible moment il faut passer. Mais je sais que tu as grande confiance au Saint-Suaire et j'espère qu'il te protégera aussi bien que l'année dernière le 24 septembre. Ne t'inquiète pas de nous, nous allons bien. Je termine, mais non sans t'embrasser 1 million de fois bien affectueusement, Bon baiser, Jeanne. Sur l'enveloppe, l'adresse de Jean est barrée d'une croix au crayon bleu. Un tampon porte la mention « Le destinataire n'a pas pu être atteint. » Et retour à l'envoyeur.
Quand au bout du jour, le pot terminé, on va prendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au sifflot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foi. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués, mieux monter aux tranchées pour défendre le bien, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres purotins. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là.
Octobre 1918. Dans la nuit, embarquons par le train, arrivons à Bar-le-Duc à 2h du matin. Une section d'auto conduite par des dames américaines viennent nous prendre à la gare et nous conduisent à l'hôpital central. On était couchés dans des bons lits et ce n'était pas trop tôt de se reposer un peu. Les blessés affluaient de plus en plus, l'hôpital était déjà rempli, il fallait de la place pour les nouveaux arrivés. Tous ceux qui avons pu supporter le voyage, nous avons été dirigés plus loin. Dans la soirée, embarquons par le train et arrivons le lendemain à Rambervillers, dans les Vosges. Après triage, suis dirigé sur l'ambulance 2-105 et reste là jusqu'au 30 octobre. Pendant cette période, il y avait l'épidémie de la grippe qui faisait beaucoup de ravages dans les hôpitaux. Tous les matins, on attendait les journaux avec impatience pour savoir les résultats de l'offensive. On attendait d'un jour à l'autre les pourparlers de paix et la demande d'armistice.
Communiqué aux Français le 11 novembre 1918 à 23h. Au 52e mois d'une guerre sans précédent dans l'histoire, l'armée française, avec l'aide de ses alliés, a consommé la défaite de l'ennemi. Nos troupes, animées du plus pur esprit de sacrifice, donnant pendant 4 années de combats ininterrompus l'exemple d'une sublime endurance et d'un héroïsme quotidien, ont rempli la tâche que leur avait confiée la patrie. Toutes les conditions exigées pour la suspension des hostilités ayant été acceptées par l'ennemi, l'armistice est entré en vigueur aujourd'hui à 11h.
Arthur Rimbaud, Le Dormeur du Val. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat, jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe, sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut, les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant, comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature, berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.
C'était 14-18. Deuxième partie, au creux de la guerre. Avec les interventions d'Isabelle Humbert et de Denis Trouche.